Bienvenue à la French Connection, épisode 144, autre épisode live que nous faisons dans le cas de la pandémie. Cette fois-ci, je suis avec Vincent.
Hey, salut les boys, salut les femmes, comment ça va?
Oui. Steve.
Bonsoir à tout le monde.
Et Patrick.
Et bonsoir.
Vous aurez compris qu'on avait eu un pré-show, fait qu'on a un peu déliré avant. Dans la diffusion officielle, celui-là n'est pas là. Fait que si vous n'êtes pas là, ben tant pis pour vous autres, vous avez raté tout ce moment de délire. Parce que on ne les diffuse pas, ces moments-là. C'est des moments qui se passent et qui s'effacent comme dans la vraie vie. Donc, commençons avec les shameless plugs. Ben, bref, on en COVID-19, hein, by the way. Je vais reprendre un peu ce que Patrick a diffusé sur son Facebook aujourd'hui. Ben, c'est une pandémie d'exagération.
Donc, exagéré, Nick.
Oui, comme 3 personnes sur 4 inventent leurs propres statistiques.
Mm-hmm.
Donc, bref, cela étant, c'est un moment où on voit à quel point la diffusion d'informations est tricky. Soyez toujours vigilants sur ce qu'on vous dit. De sources officielles, heureusement, au Canada, au Québec, on a quand même un pouvoir public qui gère relativement bien la crise de façon globale puis diffuse l'information. Fait que ça, c'est correct, mais c'est toujours important de quand même revérifier ses sources pour être sûr de où on s'en va. Et, tant qu'à continuer, conseil HMS Plug, il y a toujours le weekly social du Hackfest. J'ai appris à mes dépens cette semaine, c'était en anglais, la semaine prochaine, c'était en français. Fait qu'il y a une alternance dans laquelle je n'étais pas tout à fait au courant.
Ça aussi, c'était dernière minute.
Ouais, bon. De toute façon, COVID-19, c'est dernière minute pour bien des affaires. Fait que ça, j'ai appris à mes dépens, mais soyez au courant de quel des deux bords où la chose a lieu. Puis c'est important d'avoir cette espèce d'événement-là. Puis personnellement, j'ai plusieurs 5 à 7 ish visio que j'organise avec des collègues, des gens autour de moi. Donc, c'est un élément qui est quand même important pour garder un peu sa santé mentale. Comme tout à fait, c'est toujours sur la Slack pour la santé mentale, justement, pour les gens qui se sentiraient un peu plus chamboulés par ce qui se passe. Soyez pas gênés, c'est pas grave de se sentir chamboulé, mais peut-être l'important là-dedans, c'est d'en parler et probablement l'élément le plus important de pour sortir bien. Lavez vos mains, toujours. On le dit, les masques, il y a beaucoup de discussions qui, au niveau des personnes publiques, il y en a qui sont en faveur, pas en faveur, tout ça. Ce qui est important de savoir, c'est que les masques bleus, ce qu'on voit généralement comme les Asiatiques ont beaucoup, ça ne sert pas à protéger vous, ça sert à protéger les autres. Donc, c'est de donner ça en tête. Si vous voulez vraiment protéger vous, c'est d'autres masques. Mais présentement, ces masques-là, laissez-les aux gens de la santé. Si vous en avez, s'il vous plaît, contribuez puis donnez-les aux gens de la santé parce que les autres en ont vraiment besoin parce que eux sauvent des vies et eux en ont besoin puis c'est leur job. Ça, si vous êtes affaire de clown, oubliez, c'est pas pour vous autres. Et finalement, dans HMS Plug, la semaine numérique a été annulée. Pour beaucoup, ça a été annoncé beaucoup. Bien malheureusement, on va tenir des événements virtuels par rapport à ça. Je vais vous informer au cours des prochaines semaines. Je crois que Steve et Patrick vont contribuer à ces événements virtuels-là. Donc, on aura une discussion dans une tribune autre sur laquelle on pourra quand même discuter d'éléments de sécurité qui sont importants pour continuer à maintenir ce genre de choses-là, malgré que l'événement lui-même ne soit plus. Donc, commençons avec les nouvelles et commençons avec ce qui est le plus évident et ce qu'on a répété déjà de plusieurs fois. Zoom!
Zoom, zoom! Hey, mais ça, c'est un sujet intense cette semaine, ça. Ah, boy. Fait que par où commencer? J'ai mis une liste qui prend plus qu'une page dans nos show notes. Fait que vous irez voir ça, évidemment, après.
Incroyable!
Ouais. Commençons, je pense, par lister, mettons, les vulnérabilités, faire un retour au passé pour expliquer le contexte, puis après ça, ben, on fera de l'opinion puis des trucs qui ne devraient pas être enregistrés. tu le vois, là, c'est quoi que j'ai écrit en haut? Liste des bugs. On recommence, on recule. L'année passée, été 2019, dans le coin du début juillet. bug dans Zoom qui avait, dans le fond, un genre de serveur pour bypasser la petite icône que quand tu vas dans une... quand tu vas rentrer dans un meeting, là, ça dit « Voulez-vous ouvrir l'application Zoom? » Cette petite affaire. Et ils ont fait une petite bypass pour ça avec un serveur local, blablabla. Bla, bla. Et à partir de là, ce qui s'est passé, c'est que Zoom a dit, et surtout le responsable de la sécurité là-bas, le CISO, que c'était pas vraiment important, que c'était la...
Nice patch.
Que c'était finalement la... comment dire ça? L'utilisabilité en premier, puis la sécurité en deuxième. Et puis vous irez voir dans le show notes, c'est dit différemment, mais c'est ça que ça veut dire. Donc, zéro intérêt finalement pour la sécurité chez Zoom. Ensuite de ça, ben là, ils ont pas vraiment voulu fixer la vulnérabilité, ils savaient pas comment agir, puis ça a comme dégénéré. Apple a dû, de manière silencieuse et en background, supprimer le serveur sur tous les macOS de la planète. Donc, déjà là, c'est un très grand coup dans le visage de Zoom. Et depuis l'été passé, ben, ils n'ont rien fait jusqu'à ce qui vient de se passer là. Tout ça pour dire que nous, le podcast, on utilisait Zoom avant au lieu de cette plateforme-là pour faire ça. Et après l'épisode, je pense que c'est la 111 là, qu'on a fait ça, mais on a décidé de flusher Zoom et de reswitcher ailleurs. Juste pour vous dire que c'était déjà le bordel et de la scrap à ce moment-là. Mais depuis une semaine et quelques, ben là, c'est un après l'autre parce que la pandémie, tout le monde travaille à la maison, Zoom étant populaire, puis un petit nom cool. Donc, c'est celle-là que tout le monde se rappelle. Donc, ça a été là-dessus. L'action a augmenté genre de 40-quelques%. Et là, on s'est rendu compte que plusieurs personnes se sont mis à regarder qu'est-ce que Zoom faisait dans les applications, dans le web, dans les applications mobiles, etc. L'application iOS envoie les données complètes à Facebook, même si vous n'avez pas de compte Facebook, il envoie vos données de l'utilisation de Zoom vers Facebook. Ensuite, votre nom, votre courriel est utilisé pour miner les données dans LinkedIn pour ensuite monétiser ça. Citizen Lab, vous irez lire cela surtout parce que c'est vraiment cool qu'est-ce qu'ils ont fait. Ils ont fait un genre de reversing analyse du chiffrement des communications de Zoom qui utilise le mode ECB, donc qui se décrypte assez facilement. Donc, eux ont été capables de décrypter la communication entre Canada et US. Mais ils se sont rendus compte que Zoom, c'est une compagnie qui appartient à la Chine et que Zoom possède 4 compagnies chinoises. Donc, finalement, ils appartiennent à la Chine et ils doivent répondre à la Chine, considérant le contexte politique et autres. Mais plus que ça, les clés de chiffrement des meetings proviennent des serveurs parfois, là, de la Chine. Fait que là, ça va pas très bien. Et en faisant leur analyse, en plus, ils ont trouvé un bug de plus que personne n'avait trouvé dans les salles de meeting, dans les salles d'attente, quand tu joins un meeting, tu peux mettre une option mise en attente. Dans la mise en attente, il y a une manière de joindre un meeting. Techniquement, la vulnérabilité n'est pas à 100% détaillée encore, là. Mais techniquement, tu aurais le droit d'écouter la conversation au complet si ton timing est bon, mais personne ne sait que tu es là. Donc, quand même intéressant. Après ça, ben là, tu as le concept, évidemment, que les meetings, c'est un ID. Fait que là, c'est un numéro qui est généralement affiché dans le haut de l'application dans ton Windows. Et là, la mode de la quarantaine, c'est que tout le monde va aller mettre... Merci, Steve, de mettre le graphique. Va aller mettre, finalement... les photos de leurs meetings sur Twitter, Facebook et autres. Et là, on peut commencer à rentrer dans les meetings. Comment?
C'est Alice et Bob.
C'est Alice et Bob dans les meetings. Ben oui.
Et Bob est canadien. Alice est américaine.
Yes.
On n'a pas ça, Nick.
Hey, c'est vrai, point de plus par rapport à que tu mets l'image.
Non, je ne savais pas à quel point la nationalité d'Alice et Bob, là, je vais apprendre quelque chose. Là.
Yep. Ouais, ce qui est drôle, c'est le point numéro 2 dans le graphique, c'est que Zoom fait du marketing que c'est encrypté AES 128, mais en réalité, ça ne l'est pas vraiment.
256.
Ouais, excuse. Ouais, 256, en réalité, c'est 128, mais en réalité, c'est 128 avec ECB, donc qui revient au fait que tu peux décrypter le tout. Donc, voilà pour ça. Donc, qu'est-ce que je disais? Ben, c'est que tu peux rentrer dans les conférences qui n'ont pas de mot de passe si tu devines l'ID. L'ID était de 9 de long, donc tu peux nécessairement faire du brute de force et rentrer facilement dans ça. Puis là, il y a eu un article, je pense, sur Krebs ou je ne sais plus lequel. Après ça, ben, il y a un gars, Patrick Wardle, qui a trouvé deux bugs sur le client de Zoom en local host que pour faire de la privilege escalation et autres. Si on retourne un peu aussi, je ne l'ai pas mis dans l'ordre, si on retourne dans le bug de 2009 qui a été rapporté en juillet, Zoom a aussi essayé a demandé au chercheur qui a trouvé le bug de soumettre ça sur le bug bounty parce que sur le bug bounty, tu as un NDA comme quoi tu ne peux pas disclosure rien. Fait qu'ils ont essayé de faire taire le chercheur à plusieurs reprises, là, si vous lisez l'histoire, puis le gars a totalement refusé et a diffusé le tout publiquement. Finalement, il y a eu un autre truc, il y a eu du routing de calls vers la Chine, pas la clé qui vient de la Chine, mais vraiment la communication complète qui allait vers la Chine. Là, ils se sont excusés disant que c'était une erreur. Et
bullshit.
Comment?
Bullshit.
Bullshit. Tout à fait. Dans les notes, c'est vraiment marqué par erreur. Et par la suite, ben là, c'est les nouvelles une après l'autre des derniers jours. Google qui banne Zoom pour leurs employés, les écoles, la majorité de plusieurs États aux États-Unis qui empêchent ça. Apple, SpaceX, la NASA empêchent Zoom. Et hier, je crois, ou ce matin, Google a même banni ça. Je veux dire, ça va loin.
Le Congrès américain.
Congrès américain, mais c'est parce qu'il y en a trop, là, je ne les ai pas toutes dans ma liste. Tout ça pour dire que c'était un méchant bordel. Puis là, ben évidemment, hier, il est sorti la nouvelle comme quoi que le gouvernement du Québec aussi utilise Zoom et il l'utilise pour les rencontres médicales avec les docteurs, télémédecine et autres. Et là, ce qui est drôle, c'est que depuis 3-4 jours, tu as des noms, autant local qu'international, qui se sont mis à défendre Zoom comme quoi qu'il n'y avait aucun problème. Fait que là, je vais vous le répéter. Attends un peu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Je viens d'en dire 12 problèmes. Mais bon, c'est pas grave, ça a l'air. Si tu peux décrypter tes données, tes envoies en Chine, tu reroutes ça en Chine, le boss, il appartient à la Chine. Ça a l'air que c'est bien correct. Il n'y a aucun problème. Tout est beau. Donc, félicitations aux grands de ce monde qui approuvent une compagnie chinoise qui vole et décrypte vos données. C'est top notch!
Mais ça me fascine parce qu'il y a comme un amour de Zoom qui est démesuré, puis j'ai jamais compris à quel point pourquoi les gens se. Et je vais quand même le dire, mais des experts en sécurité ont quand même défendu Zoom. Je comprends mal pourquoi les gens déchirent leur chemise pour défendre Zoom au lieu de prendre un point de vue purement critique, neutre, face à ce genre de choses-là. Oui, Steve?
C'est simple. Ils ont la facilité d'utiliser le logiciel, ça prend 3 clics, ils sont déjà dans la conversation. Comme tu as dit tantôt, le nom il est sexy, c'est facile à retenir, puis tu sais, il est borderless pour les plateformes. Fait que les gens l'ont adopté très, très, très facilement. Ils veulent plus s'en départir parce que, comme tu disais, c'est le moyen de communication restant en contact facilement.
Ah, mon clé ici, c'est un nom sexy. C'est des gens qui viennent du marketing.
Oui, puis il faut le dire, le CISO de Zoom a dit que la sécurité, c'était pas important. Ça en dit beaucoup sur l'entreprise. Là, dans mes notes, le truc n'est pas là parce que c'est un screenshot, mais si vous allez sur LinkedIn et vous allez dans la compagnie Zoom et vous checkez les jobs, présentement, ils cherchent une dizaine d'engineers en sécurité, tout ça pour dire qu'ils n'avaient pas d'équipe vraiment de sécurité. Ils devaient en avoir 2-3, là, mais ils sont en train d'en chercher vraiment, vraiment beaucoup. Et pour rajouter sur le bordel, ils ont décidé de faire un comité advisor pour les aider à tout ça avec Alex Stamos qui arrive de Facebook. Donc, je ne sais pas si vous le savez, mais Facebook est une des applications qui est le pire côté vie privée que Alex Stamos a supporté pendant des années jusqu'à temps qu'il se fasse pogner comme quoi que l'application de Facebook leak et fait beaucoup de boîtes. Donc, ils ont décidé de choisir le gars qui supporte pas la vie privée, pour les aider sur les enjeux de la vie privée. Moi, je trouve ça drôle.
Ben, surtout que dans les différents scandales qu'on a vus passer, un était qui relayait l'information en Facebook. Donc,
en plus!
C'est ouais. Un peu inquiétant, là, dire, comme consommateur, mais par ailleurs, c'est-à-dire, tous ceux qui ont utilisé gratuitement Zoom, surprenez-vous pas, vous êtes le produit, hein, vous n'êtes pas le client du tout.
que Zoom ait revendu vos informations à Facebook, soyez pas surpris. Où ça devient agaçant, c'est que les clients commerciaux qui ont payé s'attendent à un minimum de respect de leur contenu. Puis comme n'importe quel fournisseur d'infonagique, là, puis c'est un sévère rappel. Quand vous signez avec une compagnie en info nuagique, vérifiez ses standards, vérifiez s'ils respectent les normes comme ISO 27000, le GDPR, SOC 2 et une trolley d'autres. Il y en a vraiment beaucoup. Puis vous regardez comme chez Google, Microsoft et Amazon, il y en a vraiment beaucoup de standards qu'ils respectent, et justement pour assurer la confiance des clients.
Ce qui est poche, par exemple, dans le cas de Zoom, c'est qu'ils sont approuvés par le FedRAMP, par HIPAA, par etc.
Mais même pas tant, parce que j'ai quand même fait de la recherche, parce qu'on m'a quand même demandé de faire l'analyse.
Mais ils sont quand même FedRAMP et HIPAA, qui sont dans les deux plus gros. C'est le Health et le gouvernement fédéral américain.
Mais américain, mondial.
Oui.
Tu non, pas du côté, disons, on va parler d'une plateforme concurrente Slack, qui est de la collab. Eux, quand tu regardes toute l'analyse de sécurité, tous les éléments qui vont là, tout ce qu'ils font, sont vraiment ça coche parce qu'ils ont vraiment fait leur devoir. Ils respectent les normes, ils se soumettent à des audits, ils se soumettent à des choses.
T'as raison, mais bon, ça reste méchant bordel. Mais ça, dans le chat, ça dit que les autres solutions sont pas mieux, mais malheureusement, par défaut, sont mieux. Je veux dire, la majorité des autres entreprises, point un, ils n'ont pas une patte en Chine. Fait que déjà là, t'es gagnant. Est-ce que les autres applications ont des vulnérabilités? Évidemment, tout le monde en a. Ça, c'est même pas une question. Puis dans tous les points que j'ai nommés, je pense qu'il y en a un ou deux sur les vulnérabilités sur 10. C'est un détail, les vulnérabilités. Le problème, c'est la vie privée, la manière que ça a été géré, que l'encryption, il disait end-to-end 256, faux marketing, c'est pas vrai. C'est pas vrai que le trois quarts des autres compagnies, c'est ça qu'ils font. On parle plus là présentement, je veux dire, ils sont tous en train de se checker pour pas que ce soit le bordel comme ça. Puis je veux dire, ils veulent pas aller en fausse publicité non plus. Ce que Zoom se fait faire, malheureusement.
C'est justement ce qu'on revient, c'est toutes les notions. Puis là, genre, j'interpelle les notions comptables. Les SSAE 16 ou SSAE 18, qui sont quand même des normes de vérification faites par un tiers qui vient voir tes processus, qui vient analyser tes choses, et à quel point il vient démontrer que tu respectes ce que tu dis. Zoom, ils n'ont aucun affichage de ça, et vous encore là, vous remarquez chez tous les grands fournisseurs infonuagiques, ils se sont tous soumis à la difficulté d'avoir un auditeur comptable qui vient chez vous, qui vient te dire si tu es correct par rapport à ce que tu dis, et qui vient dire est-ce que tu comptes des mensonges ou pas, puis quand tu passes l'audit, ben ça dit tu comptes pas de mensonges.
Ah, je vais en faire. Wow, vous voyez mon doigt ici là? OK. Juste une petite parenthèse sur ces fameux rapportières qui sont un sujet vachement plate. OK? C'est créé par des comptables pour des comptables. Je dis pas que les comptables sont plates, mais c'est un sujet ultra plat. Première des choses. Un, c'est une déclaration de contrôle dans l'objectif de produire un beau petit pamphlet marketing, OK? Donc, les contrôles déclarés par l'entité, c'est eux autres qui les choisissent. Ils ont aussi le choix de l'auditeur qui vont venir vérifier ces contrôles-là. Ces contrôles-là doivent être égalisés, OK? Un A-Time Sampling Dash Boosters Detector, qu'on appelle, là, selon François Pérusse, doivent être égalisés pour correspondre à des contrôles appliqués à l'ensemble de leur clientèle. Donc, ils ont des clients qui ont des besoins spécifiques. On s'en fout. Les contrôles sont pas là, sont lissés. Et puis, les contrôles déclarés sont revus 3 à 4 fois par année. Revues ponctuelles. C'est pas une revue sur une base continue. On appelle ça des revues ponctuelles. Faire très attention. J'ai 16 ans d'expérience. Je connais ça, ces rapports-là. La falsification, elle est possible. La mauvaise interprétation aussi. Et le manque de contrôle aussi, qui est directement lié à un type de secteur d'activité, peut être aussi biaisé au niveau du plan, du pamphlet. Alors, faut faire attention aussi à ces types de rapportières-là. faut vraiment bien les interpréter quand on connaît bien la base de ces rapports-là. Bon, OK, c'est mon bout de plat. C'est fini.
En même temps, la majorité des audits dépend de l'auditeur. Si t'en pognes un pas bon, t'as un rapport pas bon. Je veux dire, autant dans les sûrement les trucs que tu as que les audits techniques. Puis il faut le dire, là, les audits techniques, souvent, il n'y a pas personne qui check la technique. Fait que bof. Puis tu sais, même FedRAMP, là, qui est un truc vraiment débile, super compliqué à faire, il n'y en a pas vraiment qui check le côté technique. Tu es assis dans une salle puis te pose des questions. Peut-être qu'ils checkent ta doc, mais si tu as monté ta doc qui dit oui, on le fait, ben t'es correct. Fait que c'est poche.
Écoute, c'est beaucoup du contrôle de middle management. C'est très rare que tu tombes dans le contrôle très opérationnel et très précis, malheureusement. Mais bon.
C'est pas facile. Il n'y a pas une question de facilité là-dedans, mais c'est ça. C'est pas parfait du tout.
C'est un produit marketing.
J'ai soulevé la question justement en sachant avec qui j'avais autour de la table. Et effectivement, j'en ai réalisé des affaires de même, puis ça vaut ce que ça vaut, mais c'est au moins mieux que rien, mettons. C'est comme, ben, moi, j'étais plus dans l'époque des SAS 70, là. C'est mieux que rien, mais encore là, c'est comme on exige à un tiers de vérifier des choses qui sont hyper complexes. Lisez les rapports, parce que dans le cas de, je pense, Microsoft et Amazon, leur rapport de SSR 16 ou 18, sont disponibles sur leur site. Faites pas juste assumer que parce que le rapport est disponible sur leur site que ça conforme à ce que vous voulez. Lisez-le. C'est dole, mais lisez-le parce que vous allez comprendre un peu ce que Vincent dit. C'est ce rapport et cette relation-là avec le contenu de l'audit est peut-être pas conforme à ce que vous voulez. Et c'est des contrôles que la compagnie a choisi de faire vérifier. Puis c'est toujours la zone un peu étrange entre...
Hey, c'est comme un scope de pentest. Oui, oui, on est parfait, on a fait un pentest. Tu sais, la machine qui est là, là, pas les 12 000, là, celle-là. Là.
C'est cela. J'ai quand même vécu dans une boîte comptable pendant un temps aussi, fait que je comprends. Puis des fois, j'étais un peu outré qu'on faisait regarder que les choses qui allaient bien, mais on regardait pas les choses qui allaient mal. C'est des choses qui peuvent arriver dans certaines circonstances. Donc, c'est pas parfait, mais lisez le rapport. Cela va au minimalement vous dire ce qui a été vérifié et en quelle mesure cette vérification-là est arrivée.
De plus, j'ajouterais ceci. S'il y a des contrôles physiques déclarés, je vous rassure, des contrôles physiques, ça marche. Quand il n'y a aucune réserve sur les contrôles déclarés, les contrôles physiques, c'est bon. C'est bon pour toutes les entités, mais le clown rentrera pas chez vous. Il rentrera pas par la grande porte. Il va rentrer autrement. C'est ça la petite problématique. Là.
Ouais, ouais.
J'ai pas grand chose à rajouter.
Nick, you agree? Je veux dire oui, examen. Ouais, ouais, ouais.
Oui, merci, oui, Pat. J'approuve. Oui.
J'ai des images de clown dans la tête. Qui va venir là? Désolé.
On est connu une coupe aujourd'hui.
Ouais, puis c'est un peu tout le défi des contrôles administratifs versus tout le volet technique. Là. Puis ça, c'est un peu un disconnect important entre les deux univers. Puis des fois, qui viennent finir par nous rattraper. Minimalement, au moins, pour closer un peu le cas du Zoom. Parce que pauvre Zoom.
Zoom, Zoom.
Tu sais, on frappe sur un cheval qui est déjà mort. Là. Puis on recommence à frapper dessus. Puis on a du plaisir. Puis on a quand même. Vraiment beaucoup de plaisir à frapper dessus. Si vous voulez consommer un service infonuagique, puis là, c'est une règle générale, même si les rapports de vérificateurs tiers ne sont pas parfaits, comme il a été mentionné, puis on pourrait les améliorer, c'est déjà un pas dans la bonne direction que la compagnie est prête à se soumettre à une vérification. Une compagnie n'est pas prête à se soumettre à une vérification. On est quand même déjà dans une zone un peu plus... On pourrait se poser des questions sur la nature ou ce que cette compagnie-là veut vraiment faire. Là.
Yep, agree. Mais c'est ça. Puis tu sais, en plus, si on veut l'abattre comme il faut, c'était quelle banque là, en Suisse qui disait qu'il fallait vendre les actions?
Crédit Suisse.
Ouais. Ça vaut trop cher, cette action-là. Vendez ça.
Comment tu es une compagnie?
Oui, c'est ouais, ça.
Ça, c'est un peu injuste pour la compagnie. Là,
ouais, solide, là.
Mais en même temps, tant qu'à moi, il aurait dû prendre l'avertissement au sérieux l'été passé.
L'année passée, oui.
Quand c'est arrivé, au lieu de juste comme balayer ça comme ça, là, ça les a rattrapés sévèrement. Et en même temps, c'est un rappel intéressant pour les autres compagnies qui croient que la sécurité, c'est pas grave, ça va passer, c'est juste une mode, c'est pas dangereux tout ça. Ben, vous voyez, Zoom est un exemple public d'une mauvaise gestion de leur sécurité. Fait que réfléchissez avant de comme balayer ça en dessous du tapis parce que ça pourrait venir vous remordre de façon très, très, très sévère plus tard.
Yep. Puis ça arrive tout le temps, évidemment, quand c'est un cas public, là. À part ça, c'est que ça arrive pas nous autres.
Ouais, ben c'est ça. Mais en fait, ça l'était passé, puis ça les a solidement mordus. Passons maintenant qu'on a achevé le cheval une autre fois, parce que ça fait comme la deuxième ou troisième fois qu'on achève le cheval. Mais, tu sais, on peut pas. Comme actuellement en sécurité, tu peux pas avoir mieux que ça un exemple de gens qui se mettent publiquement dans une situation aussi dramatique que ça, puis qu'on puisse en servir un exemple, c'est juste merci. Merci Zoom d'avoir sensibilisé tous ces gens à la sécurité parce que de votre incompétence, vous avez réveillé beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens à l'importance de la sécurité et à quel point c'est important de traiter ça avec un très grand sérieux.
Ouais. Même la pandémie, en fait, la pandémie fait que la sécurité devient importante tout simplement. Zoom a comme mis le feu, là, mais...
Ouais, c'est comme un feu de vidange, là, pour traduire une expression anglaise. Mais en tout cas, minimalement, au moins, ils ont fait un service public qui a permis aux gens de comprendre à quel point c'est important de traiter la sécurité avec tout le sérieux que c'est nécessaire. Et c'est ça. Ouais,
ça éclipse Equifax, là, deux, trois ans aussi. Là.
Oui, oui. Puis comme je mentionnais plus de bonheur, mais ça nous montre aussi ceux qui l'analyse de risque, c'est pas leur fort. Fait que c'est cool à savoir.
Mm-hmm. Big time, you said it, Pat.
Yep. Yep.
Ouais, puis l'analyse de risque dans ces conditions-là, est-ce que c'est. Ils l'ont fait, ils ont juste pris le risque, ils l'ont avalé, ils sont juste étouffés avec.
Right.
C'est tout ça le fun de l'analyse de risque parce que c'est la gestion, là. Puis en tant qu'expert en sécurité, des fois, on est un peu frustré que la gestion prenne des décisions de risque qui ne sont pas conformes à ce que notre lecture des choses. Mais dans ce cas-ci, on peut constater que les gestionnaires ont pris un risque, mais probablement que l'analyse de risque avait été produite et ils se sont étouffés avec. Là. Il faut aussi faire attention avec la nature du risque. Il ne faut pas juste comme discarder ça comme ça. Fait que, vos gestionnaires, fâchez-vous pas contre vos gestionnaires qui refusent le risque, mais en même temps, assumez que s'ils ont assez étouffé avec, c'est eux qui vont s'étouffer avec, c'est pas vous. Parce que si vous êtes en la mesure de dire les choses comme vous les voyez, vous faites vraiment votre travail. Puis c'est important qu'on continue pour être cynique et de continuer à faire ce travail-là et d'être capable de communiquer cette information-là aux gestionnaires jusqu'à finalement ils vont finir par nous écouter un jour, j'imagine.
Yep.
Fait que là, avec toutes ces phases de choses, on va changer de sujet parce qu'on l'a vraiment, mais vraiment abattu le cheval. Il était vraiment mort, on l'a vraiment frappé dessus encore, puis on a vraiment, vraiment tout fait ce qu'on. Jusqu'à la prochaine fois, parce que je suis sûr qu'ils vont encore nous montrer à quel point ils ont failé dans cet élément-là. C'est juste.
Donne-leur une couple de mois, là, Skype.
C'est un fiasco, là.
1965.
Je suis sûr que dans un an, ça va faire partie des livres d'éducation en sécurité. Ne faites pas comme Zoom parce que voyez ce qui se passe, puis ils vont tout décortiquer, puis ça va être vraiment l'enseignement de ce qu'il ne faut pas faire en sécurité. Ça va être Zoom.
C'est déjà dans mes notes pour mon prochain cours à l'automne, moi.
Nice.
Ouais, c'est ça. Il y a bien des gens pour qui ils vont récupérer ça, puis moi aussi. C'est déjà rendu un sujet de prime pour mes affaires, puis. Déjà, les personnes qui disent « Ouais, je veux juste parler sur Zoom, mais je veux juste pas te parler parce que non. » C'est désolé, Zoom, je touche plus. C'est poison. Bref. Passons à un autre sujet. Justement, en parlant de la Chine, China Telecom, il y a des petits enjeux avec ça. Steve?
Yes, Steve, nous fait un Steve. C'est malade.
C'est ma signature, j'ai pas le Je l'amène dans le show.
Parfait.
Ben oui, China, on vient d'apprendre ça aujourd'hui que les Américains, devant les amis chinois, veulent les bannir de travailler aux États-Unis, aussi simple que ça. China Telecom, parce que tous les télécommunicateurs au monde à travers l'ITU prennent des ententes et des arrangements pour être capables de travailler dans un autre pays et être capables donc de faire les arrangements téléphoniques. Mais là, à ce stade, c'est des arrangements de données. Et de cette façon-là, les Américains, voyant de plus en plus que la Chine prend de l'avance, toujours encore même en arrière-plan avec Huawei qui veut s'en venir à grands pas, fait en sorte que ça peut causer ces problèmes-là, dans le sens qu'ils sont capables de s'immiscer partout. Là. Ils sont vraiment assez spéciales et très techniques pour être capables de les faire tout ce brouhaha-là. Donc, c'est sur le plancher, le FCC, ça a été soumis au FCC d'être capable de trouver une façon de dire tout ce qui est China Telecom dehors des États-Unis. Ça peut amener politiquement ce que ça a promulgué, c'est-à-dire d'avoir ne plus avoir China nulle part dans les papiers. Mais fondamentalement, ça risque aussi de faire du mal à ceux qui veulent faire du travail et du commerce avec la Chine. Ceux et celles qui veulent continuer, parce que ici au Québec, on est encore avec... faut promulguer notre travail ici au Québec, donc selon le PM et son projet de panier bleu. Mais sans faire de farce, ça peut vraiment déstabiliser peut-être certains échanges commerciaux, là, selon moi.
Hey, tu dis panier bleu, il faut que je rajoute des nouvelles dans le teint show note.
Ouais, pas de trop, vas-y.
Vas-y, live, pars-en là.
Là, là. Là! OK, cool.
T'as ouvert la porte.
Ah, panier bleu. Ouais, fait faut que je trouve ça mes données pour pas dire trop de niaiseries.
Non, t'es toujours correct, là.
Ben non, je sais. Super panier bleu, ouais. Ben, c'est sans parler du flop technique qu'ils ont eu, ouais, qu'on parlait en pré-show tantôt, que comme quoi que ils ont pas pensé qu'une publicité à 3 millions de personnes allait générer des clics.
Ouais.
Puis qu'il n'y avait pas l'infra pour la supporter. La première demi-heure que ça a été annoncé et autres, évidemment, on est allé checker la sécurité. La première demi-journée, je pense, ou journée, en tout cas, une couple d'heures, je ne me souviens pas le délai exact. Le site n'était pas HTTPS de bord en bord. Donc, si tu allais sur le site, tu tombais HTTP par défaut, donc pas HSTS. Donc, on a trouvé ça un peu poche qu'un site de 2020 soit pas capable de penser au HTTPS là, de base. Fait que là, on s'est mis à checker un petit peu plus. Donc, les sous-domaines, il y avait des sous-domaines de test avec un user password. Mais si tu allais sur le sous-domaine de test et tu mettais, mettons, slash, puis un mot random avec une erreur 404, tu bypassais la sécurité du HT Access. Fait que je peux même pas dire comment ils ont codé leur HT Access. J'ai jamais vu comment tu peux te planter autant que ça, mais c'était bien. Et finalement, le panier bleu a eu le concept, finalement, c'est que tu as un formulaire que tu remplis pour ajouter une entreprise, puis tu as un search pour chercher l'entreprise. C'est une mini BD, là. Tu sais, c'est un projet très, très simple. Eh bien, le site roule en PHP, et un site qui roule en PHP avec des développeurs qui ne connaissent pas la sécurité, qu'est-ce qu'il y a dedans? Sondage ici, mes amis. Qui ne veulent pas ouvrir leur micro. OK. Ben oui, il y avait de l'injection SQL de bord en bord. Ils ont fermé la section entrée des nouvelles entreprises en disant pour mieux servir notre clientèle, nous devons poser ça pour mieux vous servir. Non, c'est parce que ton site était pété bord en bord et malheureusement, ils ont dû le fermer et tester pendant 2 journées pour faire le fixe de ça. Et qu'au final, le super panier bleu, très québécois, utilise une base de données d'un service américain à San Francisco. Ils n'ont pas hosté leur propre BD et leur propre formulaire non plus. Tout ça est géré aux États-Unis. Et je ne sais pas comment que ça fonctionne exact, mais le forfait qu'ils ont pris est à trop petit. Quand tu fais une recherche et ça plante, c'est parce qu'il y a trop de monde qui fait de recherche en même temps. Donc, c'est un désastre et c'est aussi le retour finalement de la toile et des pages jaunes dans un site de 2020. Tada!
Oui, Steve? T'es capable de démuter, là? T'es un grand garçon.
Ce que je veux dire, c'est que, incroyable ou pas, il y a une brillante idée d'acheter de la sécurité avec un front chez Cloudflare, mais ils n'ont même pas été capables de le configurer sur le sens du monde. ils l'ont acheté, ils ont juste mis la base DNS dedans pour être capable de faire le lien extérieur vers l'intérieur. Et ça s'est arrêté là. Même le certificat, il n'était même pas seté à rien. Fait, comment tu peux prétendre que tu as tout pensé, tu as mis ça en place? C'est du n'importe quoi. Là. Je me suis fait plaisir cette journée-là. Là, puis avec toi, Pat, on l'a descendu ce site-là parce que ça
n'a pas de sens. Le président a répondu à un commentaire que j'ai fait sur LinkedIn me disant sarcastiquement, merci de m'avoir aidé. Je disais, mais il n'y a pas de trouble, j'ai rapporté toutes les vulnérabilités, puis ton équipe les a fixées. Good job, buddy. Il n'a pas répondu à celle-là, par exemple. Mais la joke de plus de ça, c'est que quand ils se sont aperçus que ça ne marchait pas, ils ont ajouté des serveurs de load balancing. Fait que là, si vous cherchez dans les subdomains, tu as LB quelque chose pour load balancing. Et ils l'ont tellement mal géré qu'ils ont oublié de mettre Cloudflare dessus. Donc, tu as l'IP direct de la machine. Et la joke de deuxième niveau de ça, c'est que tout le monde se demandait, ben là, c'est un IP américain parce que c'est Cloudflare. Ça a-tu été développé en plus aux États-Unis? Là? Non, parce que l'IP pointe une compagnie de Montréal. Donc, c'est la compagnie de Montréal que je nommerai pas là, vous êtes capable de la trouver, qui a développé le site web. Qui a fait les injections SQL, qui a payé un service aux États-Unis et qui ne savent pas faire du load balancing, mais Frontpage, cette compagnie-là, qu'est-ce qu'il y a dans leur publicité? Nous scalons vos services. Oh boy.
Ça en dit long.
Ouais, c'est triste de voir ça encore aujourd'hui. Là.
Hey, parce qu'au Québec,
c'est pas une compagnie dans un fonds de sol.
Ben non, c'est ça. Non, ce que je veux dire, Pat, il y en a des designers de sites web qui sont des professionnels dans la matière ici au Québec. Ça n'a pas de sens que ça ne soit pas le cas, que c'est eux autres qui sont en avant-plan.
Mm-hmm. Mais c'est ça l'article dans le Journal de Québec qui est sorti, qui a parlé de ça. C'est justement un de mes anciens collègues de travail, puis il est directeur dans une compagnie qui fait du développement web. Puis lui, il capotait. Il dit, voyons, c'est retour aux années 90 en plus. Lui, il parlait même pas de sécurité. C'est juste le design, l'infra, tout est tout croche.
Ben, c'est ça.
Nick, tu as beaucoup de choses à dire.
Le visage transpire, là.
Je suis juste découragé.
Ouais, c'est des... C'est vraiment poche. Ça n'a pas de sens. C'est, l'initiative n'est pas... il peut avoir du bon au final, mais si, bois.
Non, je suis un peu déçu. Parce que au-delà de ça, l'initiative est très intéressante. Je trouve ça un peu dommage que l'organisation qui a décidé de faire l'initiative n'ait pas pu prévoir que ça allait donner ça. On est quand même en 2020, fait que j'ai un peu de difficulté à comprendre qu'on n'est pas capable de planifier ce genre de choses-là. Surtout, tu prends un service comme Cloudflare qui est fait
en plus
pour supporter la charge excessive, qui est fait pour te protéger contre du déni de service distribué. Tu mets ça en place, qui est déjà un très bon plan, puis je l'utilise aussi, nous, puis très bonne compagnie. C'est juste d'avoir mal sizer les choses. Puis juste ça, je suis comme un peu fasciné par le manque de vision, le manque de... Je sais pas, on parle pas genre comme le cas qu'il y a eu pour la SQDC, que oui, ça passe par une compagnie à San Francisco, machin, puis qu'ils peuvent déchiffrer et tout ça. Ça, c'est une autre histoire complètement. Là, on parle juste de distribution de la charge. Et juste ça, c'est fascinant.
Ouais, c'est plate, mais c'est comme quelqu'un qui dit dans le chat, designer web n'égale pas DevOps. Oh, ouais, mais une compagnie qui fait des sites web a des DevOps, s'ils n'en ont pas, puis qu'ils les ont choisis en plus. Il y a beaucoup de... C'est très révélateur, mettons, de l'équipe qui lead ça, là, malheureusement.
Ouais, c'est peut-être un mélange des genres aussi. Puis là, tu sais, je vais essayer d'excuser un peu l'erreur, là. C'est peut-être qu'ils n'ont pas mis les bonnes personnes autour de la table, là. Où ça prend des compétences transversales pour faire ce genre de choses-là, dans lesquelles il n'y a peut-être pas tant de gens que ça qui ont ces capacités-là. Il y a peut-être à tort des... Là, je vois dans le chat, là, des DevOps, des gens qui font du développement, ont l'impression qu'ils connaissent tout le sens de l'univers, quand dans les faits, peu comprennent toutes les notions de télécom qui sous-tendent leur site web, là. Fait que il y a peut-être ça aussi, il y a peut-être un peu d'ego, un peu de gens qui ont cru qu'il était beaucoup plus gros que qu'est-ce qu'il était vraiment, et qui malheureusement dans un contexte comme celui-ci ont emporté l'image d'une initiative provinciale dans une zone qui était malheureuse.
Oui, exact. Fait qu'on verra la suite des choses. Parce que présentement, il n'y a absolument rien sur le site web. C'est juste entre une compagnie et ils cherchent là. Puis,
c'est pas revenu par le BioWay.
Oui, ils sont revenus hier après justement qu'ils aient fixé le tout. Je ne l'ai pas retesté, mais c'est ça. En espérant que les prochaines features ne soient pas soit américaines ou soit remplies d'injections SQL et que ça devienne positif, là, évidemment. Puis quelqu'un justement a dit pour parler de bonnes nouvelles, le service de prestation canadienne a supporté la load, ouais. Puis tu sais, comme on a dit dans plusieurs podcasts, ce qui est plate de tout ça, c'est que quand quelqu'un réussit à faire quelque chose d'aussi cool que ça, il s'en vante pas assez. C'est ça, ça devrait être vanté puis publicisé dans les médias énormément. Oui, le Québec s'est planté sur le site. Mais check les autres avec 2-3 fois plus de masse, ils ont réussi à le faire sans problème.
Il y a ça, puis. Mais on revient encore, c'est parce que au bout du compte, ça prend des compétences transversales. Les gens n'ont pas il y a très peu de gens qui ont ces compétences-là. Puis c'est pas parce que t'es un dev web que t'es capable de faire des choses super intenses en performance réseau, en performance serveur. Fait que je pense que c'est une confusion des genres. Puis j'ai côtoyé beaucoup de gens qui ont tendance à tomber rapidement dans cette confusion-là, puis que parce qu'ils sont capables de faire un site web, ils pensent qu'ils sont capables de faire de la performance ou de la distribution de charge. C'est des compétences diverses. Minimalement, si vous ne les avez pas, le sont sur ce site-là. Allez solliciter ces compétences-là chez les gens qui les ont vraiment. Là, je prétends pas que les 4 personnes qu'on est là, on les a, mais minimalement, sollicitez les gens qui les ont, ces compétences-là, parce qu'il y en a beaucoup. Puis au Québec, on en a d'excellents gens qui ont cette compétence-là. Donc, ne soyez pas orgueilleux et sollicitez.
Oui.
Patrick, il y a quelqu'un derrière toi, là. Check, check, check.
Où ça? Où ça?
Je vois dans mon écran. Ouais, c'est fou.
Eh bon, hein?
Ah, oui. Mais ouais, tout à fait. Puis, c'est ça. Fait qu'on verra ce que ça donne, parce que 3 bugs majeurs en 5 minutes, je l'ai trouvé plate. C'est sur tout ça.
Tout ça est dommage, mais c'est juste qu'il faut mettre les bonnes personnes autour de la table pour réussir à arriver à quelque chose de bien. Là, on parle de notre angle sécurité, mais on parle aussi de la disponibilité. Puis c'est un peu triste que l'ensemble des initiatives soient crachées puis publiquement salies parce qu'on a oublié de qualifier la disponibilité correctement. Puis, by the way, c'est pas les gens de sécurité qui vont être capables de vous aider en disponibilité. C'est des gens télécom, des gens serveurs, des gens capacité performance, c'est des habiletés particulières que moi, je n'ai pas. Puis, il y a des gens que je connais qui sont super hot là-dedans. Donc, s'il vous plaît, au moins, pensez pas que vous connaissez tout. Sollicitez ces gens-là qui sont capables de vous accompagner. Là.
Yes, tout à fait. Peu importe le projet. Là. On pense souvent qu'on est capable tout seul. Puis au final, tu mets quelqu'un d'autre, tu es comme « Hey, j'ai oublié 25 affaires! »
Globalement, si on réussit à amener les gens qui ont les compétences dans un même lieu, on est capable d'aller beaucoup plus loin qu'en pensant que tout ça, on est capable d'être le meilleur au monde. Donc, c'est peut-être ça la leçon à tirer de cet événement-là. Puis j'espère que les organisateurs vont en tirer une leçon adéquate. Puis que, s'il vous plaît, j'aime ces initiatives-là, mais j'aime pas ça que ça soit traîné dans la boue publiquement comme c'est là. C'est juste dommage.
Exact.
Bref. Passons à la nouvelle suivante, social engineering et COVID, Patrick. Ah, je t'ai pogné, t'es en train de faire d'autres choses.
Mon maudit. Parce que l'autre, il y a 20 nouvelles, je pense que t'as continué avec Steve. COVID qui génère énormément de trucs négatifs, fraude, manipulation, fausses nouvelles, désinformation, etc. Bien, on en a vu quand même beaucoup dans les nouvelles. Là. Je ne les ai pas toutes listées dans les show notes parce qu'il y avait un cas qui s'est produit au Québec, à quelques heures de la ville de Québec, à une heure, et que je trouve ça très poche. Je veux dire, je ne suis pas surpris qu'il y ait ça nulle part, évidemment, mais je trouve ça poche qu'on aille dans une pandémie, quelque chose qui tue bien du monde qui font ça. Une fausse infirmière qui offre des tests de dépistage payés à domicile. Donc, les tests de dépistage au Québec ne sont même pas commencés que, je veux dire, de manière individuelle et random dans la population, qu'elle a décidé de se faire de l'argent là-dessus. Ça, c'est dans la région de Charlevoix. Fait que c'est une des personnes là, qui... pas Charlevoix, excuse. Pierrefonds, Roxborough. Voilà. Dans le fond, là. Là-bas. Et que finalement, il y a quelqu'un qui s'en est rendu compte, qui a fait de la pub sur Facebook. Et là, on s'en est rendu à publier ça dans un média très, très, très alternatif là, dans les... dans la côte est, et j'espère que ça va se rendre un peu plus loin là, pour que le monde réalise que c'est pas tout le monde qui est beau, qui est gentil, mais ce qui est, puis je pense qu'on a parlé justement dans le dernier podcast, là, mais ce qui est poche avec le concept de la pandémie, c'est que ça rend les choses beaucoup plus faciles pour faire du phishing, social engineering et tout, parce que l'élément de peur, l'élément d'urgence est déjà présent dans le contexte, t'as même pas besoin d'ambitionner puis de pousser sa personne, tu fais juste mentionner que c'est relié au COVID et tu gagnes des points très rapidement ou tu lui fais peur, peu importe. Tu es capable de contrôler quelqu'un beaucoup plus facilement comme ça. Donc, très, 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 très poche. Faites attention à vous. Faites attention à ce que vous faites, ce que vous partagez, surtout sur les réseaux sociaux. Et surtout, je veux dire, les nouvelles et les réseaux sociaux, arrêtez de penser que c'est la vérité. Checkez les sites scientifiques et non pas les résumés de résumés de résumés. Aujourd'hui, il est sorti une nouvelle, puis il va falloir que je la rajoute dans les notes, comme quoi qu'il y a du monde qui a fait une simulation quand quelqu'un a éternué, puis là, jusqu'où que ça se propage dans les magasins, etc. Puis là, il y a plein de personnes, là, des journalistes québécois qui ont rediffusé ça. Et finalement, c'est un article qui est développé par du monde en engineering qui sont pas en tout... en virologie, et, ça n'a pas été soumis à du peer review, c'est un white paper d'un truc qu'ils ont fait sur la slide, mais là, ils ont sorti l'article qui débat tout ça, ça vient d'une interview que le gars parlait à une personne, et that's it. Quelqu'un a fait un article sur une interview, et ça a déboulé avec tout le FUD en cours, avec des centaines d'articles comme ça.
Ben, ça avait été démontré il y a quand même quelque temps que il y a un article qui est apparu, puis je ne sais pas si vous l'avez vu, que comme quoi le chocolat fait maigrir. Et cet article-là est un fake. Juste avant, comment démontrer le fait que toutes les affaires d'articles scientifiques, même dans leur structure, il y a des échecs.
Oui.
Et la vérification n'est pas exacte. Fait qu'à quel point on est capable de tromper les publications scientifiques. Et comme tu dis, là, on est dans un cas encore pire où la vérification par les pairs n'a pas été faite, mais encore là, même si on fait la vérification, il y a un article sur le fait, puis by the way, c'est faux. Si vous mangez du chocolat, vous ne maigrirez pas. Mm-hmm. C'était un fake, c'était très drôle, c'était justement fait pour démontrer tout le problème des peer reviews dans ce cas-ci.
Caroline, que t'es sérieux. Éventuellement, un certain groupe religieux vont arrêter de nous livrer le tour de garde, mais ça va être le tour du COVID même. Tu comprends? Fait qu'il va falloir, préparer des pamphlets pour les sortir de cette torpeur-là.
Tu te sens rien, mais ça fait du sens.
L'éducation, c'est le nerf de la guerre, les amis. On le sait. Il va falloir qu'on s'y mette là-dedans aussi.
Oh, ça me démangeait. Nicolas va rire, là. Il va pisser dans ses culottes, je le vois.
Ça y est, game over.
Non, non, c'est juste impossible. Vive le live pour ce genre de choses. Me faire apparaître dans une surprise comme ça, c'est tout à fait magnifique. Oui, puis c'est fair game. C'est correct, c'est très, très correct. On va changer de sujet. Allons avec le fait que les États-Unis, le UK va avertir énormément le fait que l'énorme croissance de problème dont de spam-ish qui est par rapport au COVID.
Ben, ça va dans le même sens que ce que disait tantôt Patrick, là, parce que les agences de renseignement et policiers de tous les pays, dont entre autres les États-Unis, le NCSC, qui est le National Cyber Security Center en Angleterre, ils détectent, puis les gens leur rapportent beaucoup de ces situations-là malheureuses. Les situations malheureuses sont celles que c'est des sollicitations, comme Patrick a décrit, que les gens reçoivent par courriel, par texto. J'ai un ami qui m'a envoyé ça hier, un beau texto pour le paiement le COVID-19, là, comment on dit, le PCU du gouvernement fédéral. Veuillez venir ici vous inscrire encore avec un faux site. C'est drôle, lui, il était hébergé aux États-Unis. Fait que je les ai gracieusement recommandé d'aller divulguer ça au Centre antifraude du Canada, alors que c'est ça que tout le monde devrait faire. Oui, là-dessus, j'ai lancé le commentaire sur beaucoup de channels officiels. Pourquoi le Centre antifraude du Canada, il est à service réduit comme tout le monde, mais que c'est un service qui devrait être surmané, autrement dit, mettre plus de monde à l'effort, parce que là, il y en a plus que jamais de la sollicitation comme ça. Fait qu'il faudrait qu'il y en ait du monde qui prenne les plaintes davantage puis qui travaille. Fait que ça se travaille dans le background, là, puis mais faut pareil, faut pas lâcher, faut les rapporter pour que ça puisse arrêter. J'ai aussi des chaînes d'appels inopportuns qui ont commencé à revenir aussi, donc des war dialers qui veulent vérifier lesquelles lignes sont disponibles ou pas pour être capable de faire des sollicitations. Il y a un paquet de trucs de même que ça s'est passé avant, hein, on peut dire l'année passée, ça s'est passé comme ça, mais ça se passe, ça continue aujourd'hui. Et c'est vrai que Social Engineering 101, donc quand quelqu'un veut aller à ce moment-là chercher la personne, bien, lorsqu'elle est déstabilisée émotionnellement, telle que les gens, la majorité des gens le sont aujourd'hui, et ça rend ça très facile pour les fraudeurs d'aller rentrer dans les maisons, surtout parce que tout le monde est en avant d'un écran, que ce soit une tablette, un téléphone, le laptop, parce que ils veulent connaître quand est-ce qu'ils vont être capables d'aller jouer dehors, ils veulent connaître quand est-ce que le hockey va recommencer. Là, c'est sûr qu'on n'aura pas de hockey cet été, hein? Mais au moins, quand est-ce qu'ils vont pouvoir jouer au golf? Fait que c'est des questions normales, mais que vont être teintées. Et ça vient aussi par-dessus les États-nations d'un peu partout dans le monde. Croyez-le ou pas, il y en a qui ont cette mentalité-là de continuer à déstabiliser les pays. Puis ça, ben, présentement, tous les pays du monde qui sont pris avec le COVID-19, ben, ils sont dans un état que faut qu'ils gèrent la population, faut qu'ils gèrent la maladie. Et après coup, ben, par-dessus tout ça, il faudrait qu'ils gèrent la désinformation. Puis donc, il y a des pays comme la Chine, la Russie qui sont bons là-dedans, qui viennent générer de l'interférence. L'interférence, c'est quoi? Et c'est de lancer des fausses rumeurs sur un tel, il est mort. Comme j'ai vu avant-hier, là, que Boris Johnson en Angleterre, il est mort. Ah, il était juste aux soins intensifs. Là, rien. Fait que là, tu lances un message comme ça. Fait que là, tu mets le monde encore sur le qui-vive. Là, hey, qu'est-ce que c'est ça? OK, ça ne concerne pas, c'est en Angleterre, je sais. Mais faisons ça ici avec, pareil, mettons, la femme du premier ministre, finalement, est retombée en deuxième fois victime de COVID. Ses enfants, maintenant, sont affectés. Là, tu peux partir des rumeurs de même. Il y en a. Et ça va créer quoi? Ça va déstabiliser pour bien du monde le fait que ceux qui aiment ces icônes de la société, ben ils vont dire, hey, c'est écœurant, c'est épouvantable. Fait que, autrement dit, là, ça crée de la distraction. Puis, faut, comme on dit, rester focus, puis peut-être des fois éteindre tout ça. Ça fait du bien. Écouter la petite musique.
Oui. Mais au-delà de ça, puis c'est un rappel assez brutal parce que là, on a beaucoup de gens qui travaillent pas, qui ont rien à faire. Fait que ces gens-là vont justement passer beaucoup de temps à essayer de briser des systèmes, à essayer des choses. J'ai eu des cas où il y a du monde qui vont crasher sur des appels, des ponts téléphoniques parce que, ultimement, c'est juste un numéro avec quoi, 6-7 chiffres. Fait que tu guesses, puis finalement, tu vas en trouver un pont téléphonique, puis tu vas aller crasher dessus, puis ça va te dire des niaiseries, puis tu vas t'en aller après.
Oui, oui. Tu sais, j'ai le truc, là, le Zoom Bombing Dialer, whatever, là, le War Dialer, je me souviens plus du nom, comment?
Le Z-Dialer, oui.
Tu sais, il était comme, oh, on ne réalisera pas le code, etc. Je l'ai codé, je pense que ça m'a pris une heure, là. Il n'y a rien de spécial là-dedans. C'est comme tu dis, c'est juste une suite de numéros. Ouais.
Mais les gens ont juste ça à faire, c'est ça qu'il faut qu'ils comprennent.
Ouais.
Il y a beaucoup trop de gens, puis tu sais, il y a quand même 20-25 ans, et ça date quand même.
Il y a trop de gens, tu l'as dit, il y a trop de gens.
Il y a trop de gens, mais il y a 20-25 ouais. ans, c'était classique, on voyait nos IDS lever à 3h30, 4h l'après-midi. Quand l'école terminait, les gens avaient trop de temps. Les adolescents avaient trop de temps, fait qu'ils commençaient à essayer toutes les espèces de trucs de Ping of Death, Smurf, machin, tout, tu sais, ce qu'on voyait vraiment à 20-25 ans. Ils faisaient ce genre de choses, fait que tu voyais les alarmes lever après vers 3h30, puis ça arrêtait genre vers 5h30 parce qu'il allait souper. Fait que ça donnait ce genre de choses-là. Ouais. Fait que ce mode-là, puis tu sais, il y a 20-25 ans, ils faisaient ça. Pensez-vous maintenant qu'ils sont à la maison, à temps plein, ils n'ont rien à foutre, ces mêmes adolescents-là. Puis je parle pas de ceux qui ont 25 ans maintenant qui sont rendus des adultes, mais les nouveaux adolescents. Pensez-vous qu'est-ce qu'on va faire? Ils vont tous tester vos systèmes. Ils vont tous essayer ces affaires-là qu'on va trouver plein d'affaires weird sur le web. Ils vont les tester, légal ou pas. Mm-hmm.
Puis ça me fait penser à une autre histoire, si tu parles de 20-25 ans, mais dans le coin de 2000...
Shit, c'est loin, Chris!
Oui. Tu dis. Dans le coin de 2008-2010, il y a eu une analyse, je me souviens, je pense que c'est un talk de DEFCON, je me souviens plus le détail, mais qui listait les bugs des grosses plateformes avec les statistiques. Fait que tu avais le concept de pourquoi PHP avait plus de bugs à tel moment dans l'année, etc. Fait que je pense que c'était de juin à septembre, PHP, c'était comme une centaine de bugs. Mais le reste de l'année, c'était la moyenne, c'était 5-10. Mais durant l'été, ça n'avait aucun sens. Puis là, ils ont retracé les bugs venaient de où? C'était un kid de 17 ans qui était en congé d'été de l'école. That's it. Puis l'année d'après, il n'y en a pas eu de bug vraiment de croissance, parce que le gars, il l'a juste pas fait. Il a fait d'autres choses. Mais c'est fou, là, le concept culturel.
C'est exactement ça. Mais tu sais, moi, je parle en 96-97.
Ouais, tout à fait. C'est
fucking loin.
Je me souviens des OOB qu'on
s'est... Oh, shit! Là, quand on a craché des Win 95 avec des Ping of Death. Bref,
c'était le fun avec ce quoi. Seven Sphere.
Oh. Moi aussi. Ah, que de souvenirs dans lesquels tu faisais ouvrir un lecteur CD d'une personne qui ne comprenait pas pourquoi son lecteur CD ouvrait chez elle.
Hey, bref, c'est pour mettre le café.
Yeah! Les temps ont changé, mais les choses ont resté quand même, malgré tout, assez similaires depuis. Bref, on n'a pas avancé tant que ça en sécurité. C'est un peu dommage.
Mais attention, là, pour être nostalgique un petit peu, Command & Conquer, il sort un beau coffret de spécial 25e anniversaire, j'ai vu.
Nice. Le même jeu ou l'upgrade? Ou...
Tous les jeux ensemble dans
un... Ah, OK.
Je sais que je travaillais pour un CNC Red Alert version 4, puis je ne l'ai pas vu encore sorti, mais je ne suis pas certain s'il est dans le package. Peut-être qu'il y en a dans la salle qui le saurait. Mais hey, ça, c'est la bonne nouvelle du jour, les amis.
Très cool.
Très cool, par exemple, Pat, j'ai checké pour le commander, parce que tu peux le commander en avance, parce qu'ils vont le diffuser bientôt. Tu commandes ça aux États-Unis, la boîte, c'est 250$, c'est une affaire de même.
Cher pour un jeu à 5$, ouais.
Plus les frais de shipping. Puis là, après ça, plus l'échange d'argent qui est poche.
Oh, 40%, oui.
Ouais. Il dit, non, j'ai fait un X là-dessus, je suis un bon fan de Command & Conquer. Mais
ils vont être sur Steam, tu n'auras juste pas la boîte de plein de bois, là.
Ouais, mais c'est ça le point, là, tu sais, là. Mais non, ils font pas de distribution online là-dedans.
Ah, même pas? OK.
Alors, ils gardent leur argent pour les bonnes choses quand même, là,
franchement. Correct.
C'est une erreur de marketing parce que, regarde, ils ont l'auditoire avec laquelle ils pourraient faire des ventes fulgurantes. Mets ça en ligne, mon ami, puis let's go, tout le monde va downloader ça va être fantastique.
C'est rendu chez des adultes qui ont de l'argent, puis des adolescents qui n'ont pas d'argent. Fait, tu sais, ils sont pas fous, là.
Ah, ça aussi.
Ouais. Ouais, c'est ça comme ça que ça marche, mais... Je garde quand même un bon espoir sur le taux de change. J'ai l'impression, avec comment les choses se déroulent actuellement, qu'on va peut-être avoir un petit gain sur le taux de change à notre avantage
dans une couple de mois. Là.
Mm-hmm.
Ouais.
Ça pourrait être intéressant. Bref.
Le COVID Stock Exchange s'en vient bientôt, là.
En Bitcoin ou en salive ou papier de toilette.
Ça va être en COVID coin, Patrick. Voyons donc.
C'est sûr que tu ne garages pas des carrés de papier.
Oh my God. Hein, papier de toilette. Papier de toilette gate, c'est un niaisage. Mais maintenant, toutes les places en ont juste trop. Ben, genre, ils en ont comme stocké trop, puis là, ben, ils sont prêts avec. Que de folie. Que l'humain est un être étrange. Passons à la nouvelle suivante. Virus, une conspiration. Là, je sais pas, parce que je suis en train de faire la traduction dans ma tête, ça juste ça marche pas. Parce que moi, c'est 5G Virus Conspiracy. Fait que j'essaie de traduire ça, mais ça marchait pas. Steve?
Ben, pour t'aider, Nick, dans ta débâcle, voici. Je sais pas si vous avez vu ça dans les nouvelles, mais il y a des tours à cellulaire 5G que le feu a pogné dedans. Mais c'est pas tout à fait ça par rapport que le feu a pogné dedans. Il y a du monde qui a mis le feu aux tours à cellulaire. Pour la simple et unique raison qu'ils ont associé développement du COVID-19, érection d'une tour 5G. Mis ça ensemble, les rayons ont activé les virus et c'est pour ça que maintenant le COVID-19 est partout dans la population. OK.
Checkez ça. Il y a vraiment des tours en feu, maudit.
Ben oui, exactement, voilà. Ce qui est le fun là-dedans, c'est que... OK, il n'y a rien de fun là-dedans, je veux dire, c'est le développement de l'infrastructure, là, puis bien souvent, la 5G va être liée avec une tour à cellulaire 4G qui est en fonction. Fait que c'est que si l'infrastructure que je parle, la portion qui est moins le fun, si l'infrastructure essentielle sur laquelle on dépend pour faire nos communications à chaque jour commence à se faire dégrader à cause de croyances populaires comme ça, on est dans chenout. Ça, ça me rappelait en 98, lors du verglas, alors que j'étais militaire, on était pris dans le centre des opérations, on m'emmenait à regarder, voyons, pourquoi il n'y a plus de couverture dans telle place, pourquoi que ça tombe à telle place. On se rendait sur place, les policiers ou peu importe qui, on se rendait compte que les génératrices des tours se faisaient voler. Le monde amenait ça chez eux pour écouter la TV et écouter le hockey. Incroyable. Mais c'est ça la réalité dans ces... Là, on est 20 quelques années plus tard, 22 ans déjà, hey, c'est quand même pas pire. Et là, c'est rendu qu'ils mettent le feu littéralement dans le tour. Fait que la portion comique que je disais, c'est que oui, la conspiration, elle commence à prendre la place, puis il y en a qui font vraiment des liens assez serrés sur qu'est-ce qui se passe dans leurs environnements. Et c'est grave, parce que là, ça s'en va dans toutes les directions. Fait qu'imaginez qu'ils font ça avec une tour à cellulaire, puis là, ils sont capables de lier ça avec d'autres choses, puis que, hey, ils vont-tu mettre le feu dans d'autres choses? Moi, je pense qu'on n'en a pas vu de cas au Canada, heureusement. C'est des affaires, le genre d'affaires qui arrivent aux États-Unis, mais restons zen. Je ne crois pas encore que la 5G soit directement liée avec la COVID, là.
Non, j'ai un gars d'InfoSec sur mon Facebook qui parlait de ça, qui a rencontré un de ces, je sais pas comment tu peux appeler ça, fanatiques, là, pour être gentil. Puis, la personne y expliquait que 5G, c'est à peu près, c'est quoi, du 30 GHz, je pense?
Il y a 60 GHz, 6 GHz et en bas de ça.
Fait que c'est comme une dizaine de fois, une trentaine de fois plus que du 2.5. Fait que le gars, il était comme, man, ben c'est super dangereux, là, faut se débarrasser de ça. Et t'es comme, non, tu sais, si t'allumes une lumière rouge puis t'allumes une lumière verte, l'onde, la transmission des deux ondes, il y en a une qui est plus haute que l'autre, là. Ta lumière verte t'explose-tu d'en face? T'es-tu en train de mourir? Non. C'est pas ça qui fait le pouvoir. C'est l'amplitude du signal, la force du signal.
Ouais, mais
pas l'onde dans les quatre
ans. Comme ils le sont, tout le monde peut-être, mais ceux et celles qui ne savent pas, la technologie d'un four à micro-ondes opère à 2,4 GHz. Même fréquence que votre Wi-Fi, même fréquence que le Bluetooth. Quand vous partez de micro-ondes, vous perdez le Wi-Fi, c'est pour ça. Et quand que vous allez dans plus haut en fréquence, plus ça commence à être dangereux à venir déranger les cellules vivantes. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup qui vont aller à dire que ça affecte les abeilles, ça affecte le cycle migratoire des oiseaux, toutes sortes d'affaires de même. Les études se contredisent jusqu'à date, mais cependant, fait de la vie, la physique des choses fait en sorte que plus t'es élevé dans les fréquences, parce qu'après ça, après les radiofréquences, c'est l'infrarouge, et après ça, la lumière visuelle, puis après ça, ça s'en va jusqu'au rayon X. Mais là, c'est très loin. Mais il reste pour communiquer. Quand tu beams, je reviens à mon exemple avec le four micro-ondes, un réseau sans fil, un routeur sans fil va transmettre jusqu'à un maximum de 250 milliwatts. Un four micro-ondes, lui, il va transmettre à 1000 watts. 10 000 fois plus que le four, que l'access point. Donc, c'est là que, est-ce que vous allez vous mettre la main dans le four micro-ondes? Ben non, c'est là, il y a... C'est une évidence même, mais c'est là que...
C'est la force, elle est là, elle n'est pas sur le niveau de l'onde. Là.
Non, exactement.
C'est ça que le monde ne comprenne pas.
Mais quand on amène ça sur une tour à cellulaire, tu sais, moi j'ai toujours ri, là, quand tu rentres dans les avions, éteignez vos téléphones, pas déranger le pilote, là, tout d'un coup que l'avion s'en va dans une autre direction. Hey, ils sont tous shieldés, ces équipements-là. Là. Come on. Une tour à cellulaire, là, c'est 25 000 fois plus fort que votre téléphone cellulaire. Pensez-vous vraiment que le téléphone va influencer l'avion? Alors que l'avion est direct au-dessus des tours à cellulaire. Come on. Donc, c'est là que quand ça s'en va dans la direction de travailler avec des très hautes fréquences, des fréquences extrêmement hautes, je devrais dire même, de 24 et 60 et 80 GHz, ça c'est fait, ça va être utilisé ces fréquences-là, surtout en milieu urbain, pour élargir la bande passante avec laquelle faire passer beaucoup plus de trafic en même temps et va être quand même pas aussi élevé qu'une fréquence qui va être plus basse. Parce qu'à la fréquence plus basse, on aura besoin de plus de puissance pour s'en aller plus loin. Mais en même temps, dans un milieu urbain, tu veux pas la même puissance de diffusion. Tu vas la grimper parce que t'as pas le choix. Ton onde à 60 GHz va pas aussi loin physiquement qu'une 2.4. Cependant, la concentration d'antenne est faite telle que ils ne mettront pas la même puissance de diffusion à 60 GHz qu'à 2.4 pour ces mêmes raisons-là. Fait que c'est pour ça que dans un équilibre, ça devrait être quand même vivable. Cependant, encore une fois, il manque d'études, il manque de sérieux pour être capable de déterminer s'il y a vraiment des conséquences neurologiques et physionomiques sur l'utilisation des très hautes fréquences comme ça dans le contexte de la 5G.
Ouais, puis c'est tout. Puis ton point est très intéressant dans son ensemble, puisque tous ces gens-là parlent sans comprendre comment ça fonctionne. Cela étant, à 60 GHz, ça ne traverse pas une feuille de papier.
C'est ça.
Fait que l'onde ne traverse pas une feuille de papier. Mais déjà là, quand tu commences à comprendre que l'onde à cette fréquence-là ne traverse pas, donc n'atteindra pas ton cerveau à 60, parce qu'elle va, c'est une feuille de papier le bloque, ta peau va bloquer l'onde. Fait que déjà là. Déjà l'autre axe aussi, puis je ne l'ai pas abordé, le 2.4, le problème du 2.4, c'est que ça fait vibrer l'eau. Et ça fait vibrer les molécules d'eau. Puis là, tout le délire qui est autour du 2.4 micro-ondes, ça, c'est parce que ça fait vibrer les molécules d'eau. Et à cette fréquence-là, ben, comme on dit à 70% d'eau, ça nous fait vibrer. Tout le délire est celui-là. Et plus on augmente la fréquence la fréquence, moins elle pénètre profondément. Donc, plus elle fait juste comme être en surface. Puis plus faut que tu injectes la puissance dans le signal pour avec quelque chose. Puis fuck, ça coûte l'énergie faire ça. C'est juste fou. Puis si on prend, puis là, t'en faisais des références, mais pour en avoir travaillé un peu avec des gens qui travaillent chez Bell Mobilité, la réalité, c'est qu'en ville, ils vont utiliser des fréquences beaucoup plus élevées parce que ça n'a pas de portée. Puis plus tu vas sortir des villes, ils vont sortir des fréquences plus basses parce que ça a beaucoup de portée et ça passe à travers plus facilement les objets. Mais en ville, comme il y a plus de tours à des fréquences plus élevées avec moins de puissance, globalement, c'est moins dangereux vu comme ça.
Yes.
À suivre.
Et il n'y a pas d'études. Puis tout le monde s'énerve, mais il n'y a pas d'études sérieuses et documentées qui permettent de dire un ou l'autre. Puis si on est à 60 gigas,
ben oui, il y a un chat qui a explosé dans les années 80. L'étude est faite.
Ouais, dans le micro-ondes, ça, c'est quoi? C'est pop-up de volume, il y a tous ses bijoux dans le micro-ondes, ça fait exploser la cuisine, là?
Ouais.
Faites pas ça.
Ah, non. À déconseiller.
Mais c'est quand même 1000 watts un micro-ondes, là. Steve le disait, c'est pas la même puissance. Nos réseaux Wi-Fi à la maison n'ont même pas ce niveau de puissance. Ça fait que calmez-vous un peu avec tous ces énervements-là. Puis lisez des vraies études scientifiques avant de
commencer. Penses-tu que le monde qui diffuse ces niaiseries-là sont capables de lire? Comment?
Je peux ne parler qu'en présence de mon avocat.
OK, d'abord.
Bref, si vous voulez vous énerver, lisez des études. C'est avant. Si vous ne voulez pas des études, vous énervez, moi, je ne vous crois pas. Bref. Passons à la nouvelle suivante. Mid Dark Nexus, Blage, j'ai pas lu le restant, Steve.
Ben, qui dit Internet dit des botnets. Qui dit des botnets, ça veut dire des bébelles à la maison de plus en plus que tout le monde se sert, mais que personne ne sécurise, personne ne met à jour. Ce qui se traduit donc à créer dans des gros réseaux malicieux. Et donc, le Dark Nexus, c'est le prochain réseau qui devrait peut-être venir nous faire du mal. C'est lui que je pensais qui était à l'origine de l'autre nouvelle qu'on va peut-être avoir le temps de jaser sur la redirection de BGP en Russie. Mais quand que Dark Nexus prend forme, c'est parce qu'il y a encore une fois des appareils, encore là, des enregistreurs vidéo, des baby monitors, des moniteurs de bébé, excusez. Et d'autres appareils connexes qui sont sur les internets avec le mot de passe par défaut et que là, ils vont compromettre ces appareils-là, les réécrire le code à l'intérieur, les faire participer, donc ça devient des zombies. Ils vont participer maintenant à un réseau qui va s'appeler un botnet et il y en a même qui l'ont qualifié, ce Dark Nexus-là, aussi performant que Mirai. Mirai, c'est là une couple d'années, ça a fait planter la côte est aux États-Unis parce que c'est attaqué avec des dizaines de milliers d'appareils compromis comme ça, à une compagnie DNS, ça a créé pas mal de problèmes. Donc, pour mitiger cette situation-là, gardez vos appareils à jour. Vous avez le temps, vous êtes à la maison, vous avez juste ça à faire. Revoyez la mise à jour, regardez comment ça se fait avec le manuel et changez le mot de passe par défaut. Ça, c'est la première étape. Les compagnies vous le donnent facile à faire. Vous donnent un mot de passe facile. Soit admin, password, rien. Et après ça, c'est voulu que ça soit vous qui administrez ce bel appareil-là, qui changez pour quelque chose qui vous est plus familier. Mais encore là, familier, mettez pas mot de password 123. Ce sont des mots de passe connus sur Internet. Mettez quelque chose d'aléatoire qui est localement significatif juste pour vous, avec le plus de différence possible. On ne retrouve pas potentiellement dans un dictionnaire et vous allez être en meilleure voiture pour profiter de cette technologie-là une fois pour.
Effectivement, mais de toute façon, mettre à jour, ça fait partie de l'hygiène de base. By the way, si vous ne faites pas ça, shame on you, s'il vous plaît. Et comme Steve le disait, vous êtes à la maison, vous n'avez rien à faire. Autant les ados n'ont rien à faire, ils vont aller casser des sites. Autant vous n'avez rien à faire, mettez vos équipements à jour. C'est, s'il vous plaît, justement pour limiter les dommages que vos adolescents pourraient faire, hein, ou à la maison.
Là-dessus, j'en fasse, Nick, c'est pas nécessairement les ados de la maison qui vont faire du dommage, mais des automates qui sont sur Internet. Et ça, j'ai oublié de mentionner le point. Parlant de cyberhygiène, compartimentalisez votre réseau domestique de l'extérieur. Je m'explique. Créez une barrière physique entre ce que le fournisseur Internet vous donne et comment est-ce que vous travaillez à l'intérieur de la maison et une différence majeure. Comment que votre réseau va performer? Pourquoi je dis ça? J'ai beaucoup de gens, des clients même, qui m'ont approché et que là, ils ne comprennent pas comment est-ce que le machine Windows s'est fait compromettre. Mais le machine Windows, de base, quand vous l'avez chez vous, qui est en présence du routeur Internet que le fournisseur vous apporte, peu importe le fournisseur, bien, il est exposé au réseau du fournisseur. Donc, quelqu'un qui n'est pas fin dans votre quartier, est capable de scanner, va détecter votre machine parce que les ports 445, 137, 138 Microsoft sont toujours ouverts par défaut. Et de cette façon-là, ils vont scanner la machine n'est pas à jour, vont injecter puis ils vont être capables de la compromettre. C'est toujours de même que ça se passe. Donc, si vous mettez une barrière physique avec l'extérieur, un routeur à vous que vous allez être capable de gérer, bien là, à ce moment-là, le fournisseur ne voit qu'une seule adresse IP et c'est celle de ce routeur-là. Vous, à l'intérieur, par exemple, vous allez avoir 150 machines, ça va être votre gestion et le risque est beaucoup moins élevé.
Mais on revient aussi sur tous les modèles qu'on perso que je mets beaucoup d'emphase dans l'entreprise. Dans le modèle le plus extrême, c'est le Zero Trust, mais dans un modèle un peu moins extrême, c'est la segmentation de base.
Oui.
Étant donné qu'on est dans un modèle où on est tous à la maison, on a tous multiplié nos appareils et maintenant on a des appareils corporatifs dans nos réseaux domestiques de façon régulière.
Oui.
C'est important que ces réseaux domestiques ne soient pas aussi pollués que l'Internet. Parce qu'il faut s'admettre que l'Internet est excessivement pollué en termes d'attaque. Si nos réseaux domestiques le sont autant, nos machines corporatives qu'on amène dans ces réseaux-là sont aussi à risque. Donc, toute la chaîne globale est plus à risque. C'est le temps, mais en même temps, nous quatre, on est capable de comprendre ce que c'est, là, segmenté. Là. Peut-être Patrick a l'air d'avoir un doute dans ses yeux, là, mais je pense qu'il non, quand même, même s'il y a un doute, je pense
que c'est Vincent qui fait le barman. Là.
C'est ça que j'allais dire. C'est pas le sujet. Il m'a regardé. On sait c'est quoi segmenter. Il y a du gin, il y a de la glace, il y a du tonic. C'est une segmentation normale, ça.
Parfait.
C'est bien parfait, mais dans un réseau, c'est pas tout à fait la même chose. C'est juste minimalement tous vos affaires domestiques sur un réseau à part, vos affaires de plus sérieux sur un réseau séparé. Ce genre de choses-là, mais c'est pas à la portée de tout le monde de réussir à faire ça. Puis c'est là tout le défi d'amener dans les mains de monsieur et madame tout le monde cette capacité-là à se protéger quand c'est quand même une complexité. Puis je te dirais que beaucoup d'entreprises ont de la misère eux-mêmes à mettre ce genre de choses-là en place. Fait, comment on peut demander à mes parents de faire ça?
Ouais, exact. Puis... Si on parle d'entreprise, le réseau est fait depuis tellement d'années, il faudrait tout qu'ils scrapent et qu'ils recommencent. Fait que c'est leur problème. Puis à la maison, t'as pas le temps. Pas le temps, mais la majorité du monde n'a aucune idée c'est quoi, anyway. À part la version.
J'en faisais cette semaine dans National Post là, avec les fonctionnaires fédéraux qui sont retournés chez eux. Puis là, ils sont à manger tout croche, ils prennent du VPN. Et bien des fois, j'ai su que de bonnes sources, il n'y a même plus de VPN, de licence VPN disponible pour les fonctionnaires. Et certains militaires pour être capables de se connecter à leurs infrastructures pour recevoir l'information puis prendre des décisions. Fait qu'une des solutions, on va dire que c'est toujours été anticipé, puis tout le monde qui a fait de l'architecture le sait, il y a moyen d'avoir un routeur développé, pas développé, mais connecté et qui est propriétaire de l'organisation, qui est déployé chez l'employé et que ça va donner le Wi-Fi pour l'employé chez eux puis ses affaires. Mais surtout, l'extension du Wi-Fi de l'organisation, que là, l'organisation va gérer le routeur avec les politiques d'entreprise, les filtrages, l'antivirus, le gros kit, pour sécuriser justement que l'ordinateur domestique ne soit pas tributaire à venir infecter les appareils de l'organisation.
Politique d'entreprise.
Exactement.
Mot-clé.
Yes. Et ça aussi, c'est de la pensée magique du futur. Là. Il n'y en a pas gros qui mettent ça dans le plan de match. Là, puis quand ça arrive, là, oh, hey, qu'est-ce qu'on fait? Ben, tabarnouche. Là. C'est ça. Faut que tu anticipes. Ça fait partie du DRP. Ça fait partie donc du plan de continuité des activités que pas grand monde fait. Yeah!
Ouais, celle-là, on arrive d'énormes problèmes. Puis dans mon day job, dans mes day jobs, c'est un défi certain de réussir à ramener le fait que tu as des ordinateurs corporatifs sur des réseaux domestiques, puis tu veux pas que ces mêmes ordinateurs-là te ramènent la cochonnerie qui peut exister sur ces réseaux domestiques.
Ou juste qu'ils installent des jeux, là, des enfants, des full malware. Pouf!
Wow, ça existe pas, ça?
Non, je sais de quoi tu parles. On est en pandémie, on n'a pas de job, fait que le monde n'a pas d'argent. Penses-tu qu'ils vont payer pour le jeu? Ben non, ils prennent la version gratis qui leak le data, voyons.
Voilà, politique d'entreprise.
Ah, même si ton bout de papier est écrit, ils vont le faire familial, pareil. Là.
Je voulais dire familial.
Oui, mais j'en reviens souvent avec l'image à mes présentations d'un Jésus qui court sur l'eau, qui compétitionne avec des nageurs. C'est juste parce que quand tu commences à dire que ta politique de sécurité est la seule et ta seule façon de protéger des façons malicieuses, c'est juste comme rater le fait que tous ces malveillants-là et tous les gens dans ton entreprise qui s'en foutent un peu de ta politique, qui ne respectent pas, vont te mettre à risque. Fait que si tu mets pas des mesures coercitives ou si tu mets pas des mesures technologiques en place pour faire que ces gens-là soient forcés de respecter les règles, tu vis dans un monde de licornes et d'arc-en-ciel.
Mais le gouvernement du Québec, c'est plein de licornes et d'arc-en-ciel. C'est tellement beau, là.
Ben non, je reçois un retour d'impôt. Hein? C'est des licornes, c'est sûr.
C'est jusqu'au au mois de novembre, t'es correct. Septembre. Bla. C'est l'écriture de papier. Les entreprises sont sous l'écriture de papier. Ça bloque pas les malveillants, l'écriture de papier.
Il faut des actions concrètes. Ouais. Et en parlant d'actions concrètes, ben, la nouvelle suivante de Steve qui était par rapport aux Russes par rapport à la nouvelle précédente.
Ah oui? Ben, les Russes. Ouais,
toi-même, t'as dit que t'espérais avoir le temps d'en parler.
Ben oui, exactement. Fait que ceux et celles qui ont peut-être noté la semaine dernière, voire en fin de semaine, si mon souvenir est bon, que ça a ralenti un peu les internets. Ça a brossé un petit peu. Facebook a ralenti un petit peu. Ben, c'est pas pour rien parce que les gros fournisseurs en contenu se sont fait rediriger tout le trafic vers la Russie. Ça, c'est des trucs que chacun des télécommunicateurs, mettons ça comme exemple, ils reçoivent le trafic. Et après ça, ils sont capables de dire ben ça va chez nous, ça va chez vous. Ça, c'est le rôle de routeur. Et après coup, tout d'un coup, dans les routes, dans le protocole de routage BGP, ben ils se font rediriger en disant ben l'identité de la compagnie 1, 2, 3 et 4 ben, sont retrouvées maintenant en Russie, hébergées là-bas. Fait que là, les routeurs d'Internet reçoivent cette mise à jour-là. Elles disent OK, on n'envoie plus de trafic là, mais on l'envoie en Russie à la place. Fait que pendant une couple d'heures, c'est devenu instable sur Internet pour cette raison-là. Et c'est ça qui a fait en sorte que c'est comme ça que c'est arrivé. Malheureusement, le protocole n'est pas sécuritaire complètement. Et ça va arriver encore. Et on a vu souvent la Chine créer des situations comme ça qui ont été capables d'exploiter. Juste un exemple, à un moment donné, si mon souvenir est bon, c'était quoi? Je pense que c'est 60 % du trafic Internet d'Europe, d'Asie, c'est-à-dire qui avait été redirigé vers la Chine pour un moment de 15 minutes. Et ça, c'était quand même assez d'informations massives qui se sont trouvées là. Fait que ça peut c'est juste pour porter à votre attention que quand il y a des ralentissements sur Internet, ben, il peut y avoir des raisons logiques et fantasmagoriques de même, ça se pourrait.
Mais on revient aussi, tu sais, c'est pas la première fois que les routes par BGP dans ce cas-ci sont routées de façon différente. Il y a du hijack qui se fait parce que c'est un système qui est un peu weak en termes de conception, là. Fait que c'est pas étonnant. Puis ça aussi, c'est un sérieux avertissement que la confiance qu'on a que notre trafic part de notre maison jusqu'au centre de données aux États-Unis dans lequel on consomme, au centre de données au Canada qu'on consomme de services, C'est pas tout à fait exact. Dans ce cas-ci, ça peut être détourné par la Chine, en cas de Zoom, qui s'est amusé allègrement dans ce cas-là. Dans le cas de reroutage par BGP, qui permet de faire ce genre de choses-là. Puis là, dans ce cas-ci, la Russie le fait aussi, fait que c'est un peu particulier. Et j'en profite aussi pour dire que, parce que moi, sur mon écran là, à ma droite, j'ai les show notes, dans lesquels c'est un Google Doc, dans lequel je vois des modifications live. Et dans lequel, et justement, ben, Patrick vient de montrer live à tout le monde, à quel je vois des folies qui s'exécutent. Fait que des fois, c'est un peu difficile. Là, on n'a pas Damien qui met des images drôles à l'écran. Là, j'ai un.
Dans background.
Qui met des choses dans les show notes qui fait des folies. Fait que, bref, hein?
On compense l'absence de Damien. Je pense que Patrick et moi, on compense l'absence de Damien, mais c'est parfait, ça. C'est imagine parfait si que... Damien était là, ça serait Excel.
C'est parfait.
C'est bien que tu l'expliques parce qu'il n'y avait personne qui comprend pourquoi ta fâche est en chaude.
Ben, c'est ça, puis il faut que je le fasse parce que sinon, j'ai juste comme j'ai l'air déconcentré par des choses que je vois dans mon œil qui est là. Et en ce sens-là, je dois lever mon chapeau à Steve, qui est le seul qui est capable de ne pas se faire déconcentrer par toutes les niaiseries qu'on fait. Et je suis probablement un des plus faciles à déconcentrer par toutes ces niaiseries-là. Cela étant.
La force du mental, comme il disait dans les boys.
Tout à fait. Et on va terminer avec la dernière nouvelle de Steve sur le fait que la NASA voit, parce qu'elle voit beaucoup la NASA, une augmentation exponentielle des attaques qui ont lieu.
Eh oui, donc la NASA, eux autres aussi, je pense, sont pas mal isolés dans leur façon de travailler, leur façon de voir la vie. Ils font en sorte que, comme n'importe quelle agence américaine, ils font de la documentation sur qu'est-ce qui se passe dans les quatre coins des internets. Et eux autres, ils ont vu systématiquement, une augmentation marquée du malware se déployer sur Internet. Puis comme on disait tantôt avec Patrick, ben c'est toutes sortes de niaiseries encore là pour attirer les gens, pour être capable encore une fois du spamming qui va rentrer chez quelqu'un puis qui va donner un accès chez l'entreprise, dans l'organisation. Donc, c'est encore au niveau des gouvernements encore plus important. Et là-dessus, je recherchais ma note tantôt, là. Il y a une affaire comme présentement, une affaire de 3 à 5 000 sites qui ont été créés juste avec une connotation COVID-19 frauduleuse qui est encore en circulation, puis que les agences de tous les pays se passent le mot puis commencent à mettre ça en terre, ça c'est correct. Puis c'est 5 000 certificats HTTPS qui ont été émis pour ça. Et ce qui fait en sorte que j'attire votre attention là-dessus, parce qu'on dit souvent aux gens, faites attention pour vous faire avoir avec un site malveillant. S'il n'y a pas de petit cadenas, ça veut dire que c'est un faux. C'est pas vrai parce que on l'a prouvé maintes et maintes reprises que des sites officiels qui n'ont pas de petits cadenas, c'est des vrais sites. Alors que aujourd'hui, les malveillants, ben, ils sont capables eux aussi de créer un site HTTPS, donc avec un certificat, avec le petit cadenas en haut. Et ça donne la légitimité de que les gens vont dire, ah, ils m'ont toujours dit, regarde s'il y a un cadenas, t'es safe. Ben, on est rendu à une étape plus loin, là. Faut regarder, c'est quoi vraiment ce site-là avant de cliquer puis donner de l'information, et c'est très important donc d'y porter vraiment une minute, de consacrer, c'est-à-dire une minute, pour être capable d'aller voir en tour comment est-ce que ça se passe. Donc, je sais que c'est pas à la portée de tous, mais c'est votre intégrité d'ordinateur, votre cyberhygiène qui est en jeu avec ça, si vous ne le faites pas. Et le faire aussi, si vous avez un doute, ben c'est de l'effacer tout simplement, parce qu'encore une fois, quand c'est trop beau pour être vrai, c'est tout simplement pas vrai.
Oui, ben ça relève le fait que puis la question est intéressante. Est-ce qu'on doit faire reposer cette réflexion sur les gens qui n'ont aucune connaissance? Parce que puis il faut pas se leurrer. La plupart des gens n'ont aucune connaissance dans ce genre de choses-là. Ou on est, en tant qu'expert en sécurité, développer des systèmes qui aident les gens à se protéger eux-mêmes par rapport à ce genre de choses-là.
Tout à fait, Nick. La réflexion est très bonne. Puis ton argument est très bon aussi, là. Comment s'y prendre pour amener ces vérifications-là. Je veux dire, il en disparaît un site, il y en a 15 qui apparaissent. Là. Ça revient aussi que ça devient très difficile pour les émetteurs de certificats de reconnaître les faux des vrais. C'est encore à l'éducation de l'utilisateur, je crois que ça va faire une meilleure défense que n'importe quoi d'autre. Parce que si ces utilisateurs-là sont plus sensibilisés de d'être capable d'aller cliquer sur le cadenas, mais encore là, on les amène à aller cliquer sur le cadenas, regarder le certificat, ils regardent quoi? Il y a tellement d'informations là-dedans là, que ça vaut la peine que les gens s'aventurent là-dedans et ouais. Parce que si vous ne connaissez pas c'est qui l'émetteur de certificats officiels, ça peut être Joe Blow Certificate Inc. qui a émis ça, ben justement, ça a l'air légitime parce que toutes les bells and whistles de certification sont apposées dessus. Fait que c'est là que ça devient même pour nous autres, des fois on peut s'y perdre pour être capable de justifier lequel qui est légitime ou pas. Fait que t'as raison, Nick. Faut trouver une mécanique et être capable de la promulguer.
C'est déjà qu'un PKI, c'est complexe pour les experts en sécurité ont déjà de la misère à maîtriser qu'est-ce qu'un PKI. Imagine les gens normaux en qui ils doivent traiter ça. Là. C'est un cosmos comme en 99, ce genre de choses-là. Donc, c'est un peu tough d'arriver à mettre ça dans les mains. Il y a un degré de complexité, je pense, qu'on doit retirer des choses puis la main des humains ou des humains normaux. Il n'y a pas de solution. Puis c'est comme les maudits mots de passe. On est juste pogné avec ça.
Ça s'en va, mais ça va être long encore.
Ça fait mal. On n'aime pas ça. Puis je te disais, même le tout est fait. C'est une situation désagréable pour la plupart des gens. Puis malheureusement,
c'est
mal
pas fait pour le grand public qui sont bons. C'est fait pour les textes à vie. C'est ça le bug. C'est pour ça qu'il faut que les passwords disparaissent. Fait que tout va être en background, il n'y aura pas rien à faire, pas de connaissances requises.
Apple et Google se sont entendus cette semaine pour être capables de faire une autre approche de tout effet. Hein?
Ah, j'ai pas vu celle-là, lesquelles?
Je t'enverrai ça tantôt, puis ils vont être en mesure, ils veulent s'entendre pour un protocole, un genre de handshake qui va être fait pour être capable.
Mais ça, c'est le WebAuthn qui est déjà en route. Là.
Même ils veulent standardiser ça.
Oui, c'est ça. C'est fait avec Fido, ça roule depuis un moment. On a un épisode là-dessus avec la gang de...
Steve, ça m'intéresse. Moi, ça m'intéresse. Patrick a l'air au courant. Moi, ça m'intéresse.
Je suis au courant et je peux te donner l'information si tu écoutes nos propres podcasts, Vincent. On a fait l'interview avec les développeurs de ce protocole l'été passé.
Va chier. Mais continue.
Il n'y a pas de trouble. C'était mes anciens collègues chez Duo. Et ouais, WebAuthn, en fait, qui est le concept de certificat qui va rouler en background. C'est très beau, Nicolas, en passant. Et qui va enlever les passwords parce que tout va se faire magiquement dans votre chose. Mais un des points du chat qui est cool, Eric, qui nous dit que le ticket non n'écale pas la sécurité. Évidemment, surtout avec Let's Encrypt, que tout le monde peut mettre des petits cadenas sur leur site de malware. Et c'est pour ça, en fait, qu'ils vont enlever le cadenas éventuellement dans les browsers pour pas que le monde ait cette tendance-là. « Ah, il y a un cadenas sécuritaire, je donne mes infos confidentielles. » Mais oui, j'aime tout pas.
Ouais, on fait des bons épisodes quand même. Hein. Même quand t'es pas là, on fait des bons épisodes.
Excellent, by the way, là. Celui-là est excellent, là. Nico, t'as fait de rire de moi, mon esti, là. Je te vois.
Ouais. Je me fais pogner, mais j'en pogne aussi, hein.
Mais, OK, Patrick.
Je t'aime aussi.
Mais elle coule pas. Oui, je vais attendre ton info.
Mais cela étant dit, puis c'est intéressant parce que la conférence qu'on a faite au premier Web à Québec, le WAC, la première édition, une des choses que je disais effectivement, c'est que le chiffrement des communications, c'est une chose, le fameux petit cadenas. C'est pas parce que la communication est chiffrée qu'elle est sécuritaire ou elle est légitime. Ça fait juste dire que tu as transféré dans un fourgon blindé de l'information. Si cette information qui est transférée dans un fourgon blindé, c'est un explosif qui arrive chez vous et t'explose d'en face. C'est vrai qu'elle a été transférée de façon sécuritaire. Il n'y a personne qui l'a vu entre deux choses.
Oui, mais elle
t'a quand même explosé d'en face à destination.
Ben, je me rappelle dans les premières conférences qu'on donnait ensemble, c'était une des slides très cool. Puis je l'ai encore quand je la donne à certains endroits qui en ont besoin. Le concept des firewalls. Il y a eu une époque, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais comme je dis, il y a des endroits qui ont besoin de le savoir. Qui disent, ben, on est sûr, on a un firewall. Je dis, ah, cool. Puis, si t'en rajoutes un autre, t'es-tu sûr? Ah, ouais, je vais en mettre 3-4, fait que je vais être plus sûr. Ben, oui, c'est clair. Hein? Tu sais, ton application avec l'injection SQL, là, que t'ouvres 8 portes vers cette application-là dans 8 firewalls, ton bug est encore là. C'est juste 8 portes ouvertes. Mais ça a été long à beaucoup de monde à comprendre ça, bizarrement, là, mais bon. C'est le concept sécurité applicative que on commence, en fait, au Québec à parler de ça, là, depuis un an. C'est ça. Ça a été très long. Parce que ça fait plus que 10 ans qu'on en parle tous, là. Mais ouais.
Ben, c'est parce que je mettrais ça plus sur la modèle, sur le fait que les modèles de référence n'ont pas favorisé ce genre de choses-là.
Ouais.
Puis, peut-être un peu un manque de compréhension des gens de pourquoi on a mis ces modèles de référence-là. T'sais, dans le début des années 2000, on était très fort sur la séparation en zones, puis machin. Puis j'ai vu des très beaux modèles dans ce sens-là. Par contre, le problème, c'est que quand tu comprends pas pourquoi tu le fais, ça arrive à des modèles un peu absurdes. Puis l'injection SQL est probablement le meilleur exemple. Il y a une époque où on séparait la base de données logique d'affaires, couche de présentation, avec des dits firewalls, entre autres. Mais tu sais, cette notion-là est un peu, de nos jours, est un peu absurde parce que si je te casse ta couche de présentation, je remonte ta couche d'affaires, et je casse ta couche d'affaires, je remonte à toutes tes données. Fait que si tu as mis toutes tes données dans un même pool, indépendant de l'application, je vais tout redrainer. Fait que ça sert à rien d'avoir cloisonné dans un sens horizontal ou dans un sens de ce sens-là. Faut que tu le segmentes autrement. Et c'est là toute la notion de zéro trust arrive. Mais bref, quand tu comprends pas ce que tu fais des drôles d'affaires.
Pas mal. Je pourrais donner beaucoup d'exemples et parler longtemps de toutes ces choses-là, comme certaines organisations avec full segmentation, puis là, ben, il y a des dérogations pour tout ouvrir les ports en dessous. C'était super jusqu'à ce que tu signes ça.
Oui, mais il y a un mot pour ça. Il y a une interprétation pour ça au Québec.
Dis-nous ça.
La mise en production héroïque.
Ah, oui. Je pensais que tu allais arrêter la mise en production, du coup.
Ça y est. Regardez, Nicolas, la tête est au mur. Il vient exactement comprendre ce que je viens de dire. La mise en production héroïque. Vite. Oh non, Carlis. Mais vite.
Sans réfléchir.
Voilà.
Mais je reprends ce que tu as déjà dit sur un podcast. C'est quand tu parlais d'un, je pense que c'est un routeur qui est mal configuré, genre les gars ont commencé à configurer, ils ont envie de chier, ils sont partis en pleine nuit, puis on va terminer. Ça, je te recite.
c'est pas mal ces mots, je pense.
Il y a eu comme une interruption entre genre, je vais commencer à configurer l'équipement, ah, oups, je suis dérangé, oups, je termine jamais. Et là, Vincent est crampé, fait que c'est comme...
Il est plus capable.
C'est donnant. C'est merveilleux, ces podcasts.
Fait qu'on va en pousser. C'est des moments exceptionnels, les gars. Hein?
Oui.
C'est magique.
C'est effectivement magique et on va en profiter pour clore le podcast parce que je pense qu'on a comme battu le cheval des nouvelles de façon sauvage ce soir.
Mais il nous manque à peu près 150 minutes pour battre notre record, hein?
Ouais, le but n'est pas battre le record. De toute façon, puis en ça, tant qu'à moi, le record, c'est le nombre de personnes qui nous regardent. On est un peu plus faible que la dernière fois, fait qu'on va essayer de faire d'autres choses. Pour ceux qui ont résisté jusqu'à la fin, on va normalement, on devrait faire ça la fin de semaine, des heures plus normales et ce qui nous permettrait aussi aux gens en Europe de pouvoir participer un peu plus parce que c'est quand même très excessivement tard en Europe. Il doit être à peu près, 4 heures du matin.
Justement, t'as
Petit déjeuner pour eux autres, ça serait pas
pire. Ouais, exactement.
Ouais, ben c'est ça. Fait qu'on va s'arranger pour être capable de diffuser plus à des heures plus raisonnables pour que tout le monde puisse participer, puisse chatter puis dire toutes les folies qu'on voit sur le channel en même temps et que certaines réussissent à me déranger aussi, même si mes collaborateurs me dérangent de façon très soutenue et très volontaire à travers tout ça. Donc, gardez espoir, COVID. La sécurité, c'est pas fini. On a beaucoup de travail. On compte sur tout le monde. Messieurs, est-ce que vous avez des mots de la fin?
Oui, une dernière chose. C'était ma nouvelle. Je vais être très bref. Récupérez votre taxonomie des risques. Alors, passez-la en revue puis mettez-la dans le contexte actuel. Il y a un paquet de paramètres puis d'indicateurs qui vont changer. S'il vous plaît, faites l'exercice. Je vois tout de suite Steve qui est d'accord avec moi.
Oui.
Il est plus en mode gouvernance.
De quoi tu parles, Vincent?
Quand tu sortes de mode, c'est exactement ça.
En fait, Patrick, c'est facile. toutes les lumières rouges que tu vois allumer, là, c'est parce qu'il y a des décideurs qui nous écoutent pas. Steve puis moi, c'est juste pour ça.
Ah! L'écriture de papier.
Vincent, au prochain cast, au prochain podcast, là, pour faire prendre quelques minutes là-dessus, ça serait intéressant.
Ben, je pense que oui, parce qu'on a eu...
On vient de dire qu'on voulait plus de personnes qui écoutent.
On close. Nicolas close. Je vais parler à Steve, là.